France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ah, l'étiquette, ah, le protocole, ah, les codes, les rites, le cérémonial. S'y tenir, c'est montrer qui l'on est, à quelle classe on appartient, à quelle distance on se tient du roi à Versailles. C'est se définir courtisan et en jouir. Par la bonne interprétation du monde, par la présence, par l'absence, par le mot et par le geste. Après avoir étudié la mise en place de la mécanique dans les rituels de la cour, le changement des mentalités selon les règnes et l'importance du langage, Françoise Lebrun, pour une série de chemins de la connaissance, s'intéressait le 7 juillet 1994 à l'importance du geste.
Rituel, étiquette, la cour. Quatrième mouvement, du mot au geste. Si, d'une certaine manière, on peut demander aux courtisans de l'époque de savoir tenir leur langue, on leur demande aussi beaucoup de tenir leur corps. Et aujourd'hui, avec Laurence Loupe, qui est critique d'art et enseignante en l'histoire de la danse, nous allons voir comment, justement, le corps était amené à se mettre en représentation et à quel point cette représentation déterminait presque essentiellement, pas essentiellement, mais en tout cas de façon très forte, l'inscription dans le monde de cette cour.
La présence de la danse dans le cérémonial de cour est très importante puisque la cour elle-même, comme mode de vie, je dirais même comme laboratoire de vie, parce que beaucoup de notre modernité vient des cours aujourd'hui, beaucoup de ces expériences qui ont été des expériences humaines fondamentales. Elle est très très importante et c'est même la cour qui a développé la danse savante en Occident. Ça commence un petit peu avant François Ier, on pourrait d'abord le situer en Italie où le bal, la danse, est un exercice à mi-chemin entre l'expérience vécue et la représentation. À travers la danse, le courtisan, au sens que Castiglione est donné au mot cortigiano, c'est-à-dire avec tout l'idéal humaniste et même spirituel, montrait à la fois son rapport à l'âme, au sentiment intérieur que le corps représente selon la philosophie platonicienne, et cette pensée très très élevée de la danse comme exercice spirituel et comme aussi comme présentation de soi dans le monde, comme inscription de soi dans le monde et dans le corps social, est quelque chose qui effectivement va se développer dans les cours en France à travers les Valois qui ont énormément favorisé la pratique de la danse et qui ont protégé toutes les expériences importantes, comme par exemple l'Académie de poésie, de musique et de danse d'Antoine de Baïf, protégée par Charles IX, entre autres, et par Marguerite de Valois. Et puis, cette tradition va s'installer dans la famille, et Louis XIII, et puis Louis XIV, vont être aussi des danseurs et des gens pour qui la pratique de la danse est quelque chose de fondamental. L'origine de la forme, c'est le bal. Et le bal, cela comprend un espace qui est un espace ritualisé. Et même à Versailles, par exemple, on dressait une architecture provisoire de bal pour les grands bals réglés. Donc c'est presque un espace réservé. Je dirais que l'espace de bal, tel que les décrivent les livres des notateurs ou les traités de danse, c'est un espace qui est un espace orienté, un peu comme l'espace de l'église, où la présence du corps, on parle du terrain, on parle de la présence. On est en présence quand on regarde vers le roi, ou qu'on regarde vers la personne qui dirige le bal. Il y a donc un rapport, une relation de corps à corps, de regard à regard, qui organise et qui ritualise cet espace. Et par exemple, une des choses très très belles dans le bal baroque, dans la pratique des danses telles que Feuillet les a notées au XVIIe siècle, c'est cette montée qui commence toujours la danse, c'est-à-dire qu'on est au fond de la salle et on commence par monter vers. Et une fois qu'on est monté vers, qu'on est au plus proche de ce qu'on appelle la présence dans les traités de danse, eh bien à ce moment-là, les danseurs peuvent se séparer et ils peuvent prendre l'espace. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette montée vers la présence du corps, qui peut être le corps royal, mais un autre corps, qui magnétise l'espace, un peu comme si vous voulez, dans le tabernacle, la présence divine, dans le tabernacle de l'Église catholique, la présence divine magnétise à la fois l'espace, le regard, la direction, ce qui fait que le corps s'avance vers quelque chose. Il y a un autre élément qui importe énormément, c'est que la rencontre des aristocrates, surtout dans la France des 16e et 17e siècles, est destinée aussi avant tout à maintenir la classe aristocratique dans sa pureté extrême. La cour est aussi faite pour ça. C'est la séparation de ces gens et quelque chose qui est très important, c'est l'alliance. Les alliances entre les hommes et les femmes méritent d'être l'objet d'un rituel et même peut-être d'une symbolisation. Elles méritent d'être vécues dans le réel, bien entendu par le mariage ou toutes sortes de rituels, mais elles méritent aussi de passer dans le symbolique. Et il y a une chose qui est très importante sur le mélange des sangs, parce que le mélange des sangs, c'est quelque chose qui va fonder précisément toute la raison d'être de ces gens qui sont réunis dans ces cours. C'est que, par exemple, au bal, du moins au grand bal réglé de Louis XIV, tel que nous les décrivent les traités des maîtres à danser, il y a une réglementation extrêmement fixe sur le rang de la personne avec qui on doit danser. Et un homme doit, par exemple, danser avec une femme dont le rang est légèrement inférieur au sien. On dit qu'il prend une femme, donc il faut que le rang corresponde à celle qu'ils prennent, et quand la femme prend, elle, à son tour, puisque la femme prend et l'homme prend chacun à son tour, l'homme doit également correspondre à un rang légèrement supérieur au sien. Donc il y a toute une écriture du rang, une écriture de la hiérarchie qui s'exprime à travers le bal, et le fait que ces rapports se font à travers l'homme et la femme, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas mariés, même s'ils n'ont pas de relation sentimentale, ce qui était le cas évidemment, puisque le bal est un rituel très grave, il n'est pas question d'y mêler, du moins sous Louis XIV, quoi que ce soit de galant, et enfin, du moins en apparence, eh bien, c'est quand même le temps d'une danse de bal, c'est quand même une alliance de corps. C'est quand même la métaphore de l'union de l'homme et de la femme. Le temps d'une danse, ce temps est très court, puisque les danses sont assez courtes, tout le rituel qui les entoure, c'est-à-dire les révérences, prendre, mener jusqu'au fond de la salle, etc. Eux sont très très longs, mais relativement longs, mais c'est un intervalle de temps pendant lequel il y a un couple métaphorique, un couple absolu qui se forme et qui symbolise le mélange des sangs toujours possible, c'est-à-dire l'alliance.
Et le roi danse.
Le roi danse, bien sûr. Le roi n'est pas toujours le roi, parce que il y a des bals dans les maisons nobles et dans les maisons bourgeoises, mais il y a toujours quelqu'un qui est le personnage principal et qui se tient en haut de la salle de bal, c'est-à-dire qui organise justement la présence des corps. Et de même que d'ailleurs à la chapelle de Versailles, lors des cérémonies religieuses, on ne regarde pas l'autel, tous les fidèles sont tournés vers le roi. Et ceci est très important parce qu'on parle généralement du début du spectacle de ballet comme organisé autour du point de vue du roi, c'est-à-dire que le roi serait au centre et que c'est lui qui organiserait un regard. Or, c'est le contraire. C'est le roi qui est l'objet du regard. Et la danse est une organisation pour aller vers lui, pour se manifester. Mais le roi danse, qui que soit le roi, en l'occurrence, c'est lui qui ouvre le bal, généralement par une courante, parce qu'il y a quand même aussi un déroulement des danses. qui est tout à fait réglé, qui lui aussi est symbolique d'espace, de durée, de temps, etc. Et Louis XIV, quelquefois d'ailleurs, en particulier parce qu'il aimait beaucoup les courantes, il lui arrivait d'ouvrir le bal 6 fois de suite avec des dames différentes, surtout quand il n'était pas à la cour, puisqu'il était invité aussi, par exemple, à des bals de mariage. Et donc, il dansait, et au bout d'un certain temps, quand Louis XIV a vieilli, il s'est retiré du bal à la moitié, généralement quand les danses lentes et graves étaient finies, et après d'ailleurs l'atmosphère était beaucoup plus détendue, on dansait des danses plus légères, nous disent les maîtres à danser. Savoir danser comme il faut savoir monter à cheval et comme il faut savoir se battre à l'épée. D'ailleurs, dans les mêmes salles, les salles d'académie où l'on apprenait l'escrime, on apprenait aussi la danse. Et ces salles étaient très, très nombreuses. Et la danse faisait partie de l'éducation, car je dis il faut savoir danser comme il faut savoir, par exemple, manier le fleuret, mais il faut également savoir chanter, savoir jouer du luth. Toutes les pratiques artistiques faisaient partie de la vie de cour depuis la Renaissance, et c'était des tâches symboliques auxquelles le courtisan ne pouvait échapper. La danse faisait partie fondamentalement de l'éducation. Dans les collèges de jésuites, on dansait pas seulement pour apprendre, mais on dansait aussi sur scène. Il fallait que les élèves des collèges participent à des fêtes où toute la population de la ville était réunie, donc on pouvait les voir en train de danser. Et la danse, c'est une façon de se situer dans le corps social. C'est-à-dire que le jeune homme, lorsqu'il arrive à la cour ou lorsqu'il arrive dans la société qui va être la sienne, c'est par la danse qu'il révèle l'existence de son corps. Mon corps n'existe pas tant que je ne l'inscris pas dans le corps du socius, et tant que je ne le donne pas à voir, et tant que je ne suis pas moi-même le sujet d'une vision, parce que le regard à cette époque est très important, le regard accompagne toutes les relations, le regard par exemple dans la danse entre l'homme et la femme est quelque chose de très important, il ouvre un champ, il ouvre un espace, il ouvre une relation, et c'est mon regard qui ouvre la relation à l'autre, mais c'est aussi dans le regard de l'autre que j'existe. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans l'évolution de la danse et dans son importance à l'époque baroque.
Enfin, la pratique de la danse, de la belle danse, était un signe de classe, parce que je pense au film de Renoir, La Marseillaise, où les émigrés à Coblenz dansent entre eux dans ces petits salons de fortune où ils se retrouvent, parce que c'est leur classe, enfin c'est leur histoire, c'est leur essence. Ils dansent, ils refont le menuet ou je ne sais quoi, enfin ce qui correspondrait vraiment à la danse de cour pour retrouver leur identité.
Alors, c'est bien sûr, mais à ceci près que, en particulier les notations en danse, qui étaient publiées, et que chaque année, les maîtres à danser publiaient les recueils des dernières danses de la cour, si bien qu'elles étaient imitées partout. Et le moindre petit bourgeois pouvait prendre des leçons de danse et imiter les princes. Et la danse, c'était quand même un art qui était répandu partout. Ce qui comptait au fond, c'était le modèle, mais par exemple, il y avait des cours de danse dans les écoles militaires, dans les écoles de marine, dans les écoles de pages, dans les collèges, je l'ai déjà dit, et si par hasard un des élèves des jésuites, ce qui était souvent le cas, était un enfant de la campagne, puisque les jésuites acceptaient beaucoup d'enfants de milieux tout à fait défavorisés, et il apprenait les mêmes danses que ses copains, ses petits camarades au cours de danse journalier. Donc, ce qui compte en tous les cas, c'est l'image que cela transporte. Mais c'est vrai que dans ces danses, dans ces espaces réservés, les aristocrates, surtout au moment de la Révolution, où ils ont dû se réfugier dans des vieilles valeurs, ont probablement retrouvé beaucoup de choses. Ceci dit, ce n'était pas difficile, puisque à cette époque, dès le début du XVIIIe siècle, énormément de maîtres à danser français ont émigré partout en Europe et dans toute l'Europe. On dansait encore à la fin du XVIIIe siècle les danses qui étaient à la mode au début du XVIIIe siècle à Versailles ou à Paris. Donc, parce que l'Europe était une grande province par rapport à Paris. L'Europe imitait la cour de France et les mœurs parisiennes. Et on trouve par exemple en Belgique, on a trouvé en 1820 un livre de notation de danse du XVIIIe siècle avec la notation feuillée qui était abandonnée depuis 100 ans en France, mais en Belgique c'était encore en usage. C'est un côté très campagne comme ça.
Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'évolue que faute de savoir danser.
Comment cela ?
La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes ?
Cela est vrai.
Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle ?
Vous avez raison.
Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire ?»
Oui, on dit cela.
Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser ?
Cela est vrai, vous avez raison tous deux.
Ah. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique.
Je comprends cela à cette heure.
Voulez-vous voir nos deux affaires ?
Oui.
Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique.
Fort bien.
Allô ? Avancez.
Dans l'espace du bal, il y a eu un type de représentation très importante qui était le ballet, qui a commencé en France à la fin du XVIe siècle avec le ballet des ambassadeurs polonais, puis le ballet des comiques de la reine sous Henri III. Mais cette forme de représentation avait déjà été expérimentée avant. On ne savait pas trop à quel moment dans le bal, et on était dans le spectacle, où on était dans le faire, dans l'expérience. Et d'ailleurs, par exemple, au grand bal réglé, il y avait une grande partie de l'espace qui était prévue pour le public, parce que, par exemple, tous les étrangers qui passaient par Paris allaient à Versailles, et faire voir un bal de la cour de Versailles, ça faisait partie du parcours du touriste à Paris. Et il y avait entre 400 et 800 places de réservées pour le public qui venaient voir les courtisans danser. Donc les courtisans savaient très bien que dans ce qu'ils faisaient, qui était d'une grande beauté, ils en avaient très très conscience, parce qu'il y avait tout un travail derrière qui était très important de la part des maîtres à danser, puis d'eux-mêmes. Et puis on venait voir aussi quelles étaient les dernières danses de la cour, quelles étaient les dernières modifications du style, de l'écriture des maîtres à danser, parce que tout ça c'était très très écrit. Et il y avait dans le bal même, le côté spectacle n'est pas séparable de l'expérience du bal. Et on peut dire exactement la même chose du ballet, c'est-à-dire que le ballet a commencé par être une expérience collective, partagée d'ailleurs par deux communautés. Une qui était la communauté aristocratique qui dansait, et puis un très large public qui était invité, je dis invité parce que c'était pas payant, à venir voir ces spectacles qui d'ailleurs, la plupart du temps, étaient des spectacles de propagande. C'est-à-dire qu'à travers le ballet, symboliquement, on délivrait un message qui était une lecture du monde, une lecture soit de l'actualité, soit une lecture cosmique, soit une lecture symbolique de ce qui se passait, de l'équilibre entre les classes, de l'équilibre entre les hommes, ou du déséquilibre des pouvoirs. Quelquefois, les ballets avaient des objectifs extrêmement polémiques, comme par exemple le ballet que Louis XIII a fait contre sa mère, Marie de Médicis, le ballet de la délivrance de Renaud. Et mais le public était quand même venu à grande affluence. Et donc, c'est un corps social qui se donne à voir à un autre. Et donc, il est dans son cadre. Et ce cadre, on ne sait pas trop s'il est dans l'imaginaire ou dans le réel. On ne sait pas trop si, par exemple, l'allégorie, qui est très très importante à cette époque, renvoie à un personnage fictif ou au personnage réel qui incarne le rôle. Et en ce sens, le ballet de cour est quelque chose qui, encore aujourd'hui, nous fascine. On n'a pas peut-être trouvé vraiment aujourd'hui de forme âme, qui soit aussi transitoire entre l'expérience du réel et de l'imaginaire, et on ne sait pas, d'ailleurs le spectateur ne savait pas toujours s'il faisait partie du ballet ou non. Par exemple, il y avait des ballets dont le dispositif qu'on dressait aussi à l'occasion, c'est des architectures provisoires, ce qui est très très aussi, ce qui peut faire penser à toutes sortes de formules d'architecture contemporaine. L'architecture qu'on dressait, quelquefois, englobait le public, et le public était là à titre de figuration, dans un ballet qui imposait d'avoir une foule, par exemple. Par exemple, il y a eu un ballet où il y a eu des nuages qui ont circulé au-dessus du ballet, avec l'art des machines, et ces nuages circulaient aussi au-dessus du public. Donc le public était englobé, d'autant qu'il n'y avait pas de scène, c'était un espace tridimensionnel. Le public était tout autour, comme dans une salle de bal, puisqu'on est tout autour de ceux qui dansent, ou alors sur des galeries d'un surplomb, d'où on peut voir et on peut distinguer l'écriture de la danse, c'est-à-dire ces figures abstraites, généralement à signification symbolique très lourde, que le parcours des danseurs trace au sol et qui est comme une écriture mystérieuse et qui est très importante. Donc, tous ceux qui étaient en surplomb avaient accès, évidemment, à la lecture de ces écritures tracées au sol par des corps passant sur le sol. Donc, il y a toutes sortes de niveaux de représentation dans le ballet de cour, qui est une œuvre à la fois très libre, mais très riche, et sur laquelle, d'ailleurs, il y a déjà des ouvrages, mais enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'études, parce que c'est un univers étonnant.
Le rythme des balles était donné et par l'Église et par la mort. C'est-à-dire que pendant les temps d'Avent ou de Carême, j'imagine qu'il n'y avait pas de balles, et que pendant les deuils aussi, il y avait interruption des balles.
Effectivement, pendant les périodes de Carême, d'Avent et puis les périodes de deuil, beaucoup d'événements étaient supprimés, comme par exemple les représentations de l'opéra, du théâtre, etc., et bien entendu les bals, mais les enterrements eux-mêmes étaient d'immenses spectacles. Et, par exemple, on cite toujours la lettre de Madame de Sévigné décrivant l'enterrement de la pompe, comme on disait, du président Séguier, dont le cercueil était soutenu par une architecture provisoire. Là aussi, on dressait des pompes absolument extraordinaires. Et il y a 8 squelettes sculptés dans le marbre qui portent le tombeau, des images étonnantes de la mort, mais qui sont des images très fortes. Et le cérémonial du corps au moment de la mort est tel que... c'est Jean-Michel Lacomté qui en parle très bien au moment de la mort de Madame Henriette, la première madame, avant la princesse Palatine, qui a été tellement aimée du roi et de la reine qu'ils ont transgressé un interdit très fort, qui était que le roi ne devait jamais entrer dans une salle où il y avait un mort. Et pour madame, il est entré dans la chambre mortuaire et il a aspergé son corps. Mais la mort était tellement un spectacle et tellement une expérience de corps aussi, parce que c'était, les agonies étaient publiques, elles étaient très longues, c'était aussi des spectacles. Et il faut bien voir aussi que toute cette époque est toujours à mi-chemin entre la vie privée et la théâtralisation de la vie privée. On ne sait pas jamais où commence la vie publique. Par exemple, le coucher des mariés, même des princes, est vu par tout le monde. Sinon, la consommation, c'est les actes les plus intimes font l'objet d'un acte spectaculaire. Et la mort, évidemment, est parmi les grandes représentations de l'époque, même si le corps lui-même commence à faire l'objet d'un tabou à cette époque, ce qui n'était pas le cas avant. Et si le corps mort commence effectivement à provoquer à peu près la même... ce qui commence aussi à se passer à cette époque, le même voir la mort devient presque un interdit aussi important que voir l'acte, la scène primitive. Mais c'est seulement vraiment à la fin du règne de Louis XIV. Enfin, on peut bien entendu relire toutes les analyses de Philippe Ariès là-dessus, sur la double écart de la mort et la double montée de la pudeur qui n'existait absolument pas avant, puisque tout, il n'y avait aucun, on ne se cachait pour rien.
Est-ce qu'on pourrait dire que, effectivement, cette ritualisation du corps dans la danse, arrivant jusqu'à son point presque de rupture théâtrale, en tout cas, sous Louis XIV, pourrait correspondre effectivement à la montée d'abord d'une mise en ordre et d'une conscience. Enfin, vous parliez de Pascal tout à l'heure, je pense Descartes, enfin de tout ce mouvement qu'on retrouverait dans l'histoire du corps. Vous parliez du corps mort aussi, le corps mort, moi ce que j'ai un peu lu, c'est qu'effectivement mort, il est immédiatement abandonné. C'est-à-dire qu'on ne le veut pas seulement le roi, mais enfin quand monsieur meurt, hop, volez de moi nous, plus, on laisse un corps mort et absolument laissé presque au corbeau, je dirais, l'enterrement est très longtemps après, les parties du corps sont réparties, enfin sont envoyées, le cœur à un endroit, enfin je parle des personnes royales, les viscères, celles de la grande mademoiselle qui font exploser l'urne, enfin tout ça est quand même un rapport très violent au corps. D'un côté, j'existe parce que je montre mon corps dans un système de mouvement, je m'intègre par ce système de mouvement dans cette société de cours, enfin, je signale ma place, c'est l'histoire de la jeune princesse qui épouse le grand Condé, qui n'est pas capable de danser, et qui tombe, et qui essaie de mettre des hauts talons, qui tombe, qui glisse sur les parquets, et on sent que c'est comme un... C'est vraiment comme pour nous, quelqu'un qui se mettrait, je ne sais pas, je sais pas quel pourrait être l'acte d'écart, enfin, social, mais c'est vraiment très violent. Et j'ai l'impression que c'est un moment de notre histoire, finalement, où il y a eu le plus... de heurts entre les images de corps à travers ces codes de cérémonial.
Il est très probable que ces codes de cérémonial et de rituel ont essayé, eux, de régler une possible pensée du corps. Et c'est peut-être là où ils ont fait erreur, parce que le corps échappe toujours. On dit toujours que Louis XIV a beaucoup favorisé la danse, mais c'est lui qui a mis fin au ballet de cour en 1672 avec... Les fêtes de l'amour et de Bacchus, qui a été le dernier ballet de cour, après quoi tout l'imaginaire mis en jeu par le ballet de cour et par d'ailleurs toute la tradition baroque a été réservé à des professionnels. Il n'était plus question de faire semblant. Au moment où on entre dans la deuxième partie du règne de Louis XIV, tout ce qui est de l'ordre du travestissement, de la métamorphose de soi ne peut plus avoir lieu. Il est certain qu'à ce moment, le bal va continuer, mais le bal est une pratique de soi. Le bal est une pratique de soi comme vérité de soi. Et là, on entre vraiment dans l'ère classique, on entre dans l'ère de Pascal, qui est un petit peu antérieure, si vous voulez, mais de l'ère où, malgré la poursuite qu'il a fait des jansénistes, Louis XIV était le premier adepte de ses pensées françaises, de ses pensées de la conscience française, d'entrer dans le rationnel, alors qui est aussi l'entrée dans la tristesse, parce que la deuxième partie du règne de Louis XIV va être assombrie par toutes sortes d'événements, dont ceux qui provoquent lui-même d'ailleurs, puisque c'est la période des persécutions, c'est la période du règne de Madame de Maintenon, de l'intolérance, d'une certaine sévérité qui va se répandre sur la cour. Mais je pense que plus largement, c'est aussi l'entrée dans le rationnel. C'est quand même ce rationalisme-là qui va fonder la pensée classique. Et qui est obligé d'une certaine façon de se libérer de l'imaginaire baroque pour arriver à la conscience de soi.
Thank you.
C'était Les Chemins de la Connaissance, rituel de cour, vertige d'un ordre, du mot au geste, avec Laurence Loupe, critique d'art et enseignante en histoire de la danse, une émission de Françoise Lebrun, réalisation Jacques Taroni. Première diffusion sur France Culture le 7 juillet 1994. Prochaine et dernière émission de la série, Tournis et détournements.